Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Je veux que vous ouvriez votre Bible alors que nous discutons de la façon de tirer le meilleur parti de la parole de Dieu et que vous cherchiez 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Je m'excuse à certains égards parce que normalement, le dimanche matin et soir, nous prenons un passage des Écritures et nous étudions ce passage de manière explicative. Mais c'est une série très spéciale. Il ne s'agit pas tellement d'une prédication, mais plus d'une salle de classe, car nous parlons des principes de l'étude biblique. En vertu du sujet, nous sommes forcés de traiter certaines choses techniques et certaines choses qui ne sont pas nécessairement liées à un texte de l'Écriture, mais qui sont si essentielles et si fondamentales qu'elles vous prépareront à étudier tous les passages de l'Écriture. Donc, si vous permettez, pour aujourd'hui, que je sois professeur plutôt que prédicateur, pour vous donner une leçon sur l'étude de la Bible, vous serez bien servi, et moi aussi. Dans 2 Timothée 2,15, nous avons juste un point de départ, bibliquement, qui nous donne le mandat sur la nécessité de l'étude biblique. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ne pas gérer la parole de vérité, c'est porter la honte sur soi. Quand vous avez affaire à la parole, vous avez affaire à la parole du Dieu vivant. Quand vous avez affaire à Dieu, vous avez affaire à quelqu'un de vrai, et en qui il n'y a pas de mensonge. Dieu, celui qui ne peut pas mentir, a parlé. Dans la Bible, Dieu a parlé. Il a parlé pour être compris. Il nous incombe d'analyser, à juste titre, la vérité, de traiter avec précision la parole que Dieu a prononcée. Rien n'est plus déconcertant pour moi, rien n'est plus affligeant ou dérangeant pour moi que la mauvaise manipulation de l'Écriture. En fait, c'est un peu une passion pour moi. Je pleure dans mon cœur quand j'entends la parole de Dieu maltraitée, mal représentée, quand j'entends des passages qui sont utilisés pour enseigner des choses qu'ils n'enseignent pas, quand j'entends l'Écriture utilisée pour enseigner de fausses doctrines. La déformation de la parole de Dieu est sérieuse. C'est un grave péché, un culte inepte et non biblique. Aucun d'entre nous ne voudrait être coupable d'adorer Dieu d'une manière qui ne lui convient pas. Dieu veut être adoré, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Dieu veut être adoré du cœur. Il veut être adoré pour le Dieu qu'il est. Il veut être compris pour ce qu'il est. Il veut être exalté pour ses attributs tels qu'ils sont. Et nous voulons adorer le vrai Dieu, comme il est, de la manière dont il nous a appelés à adorer dans l'Écriture. Et nous ne voulons pas altérer l'adoration de Dieu d'une manière triviale ou banale, parce que nous comprenons la gravité de cette attitude, et la même chose devrait être vraie avec la façon dont nous traitons les Écritures, puisque Dieu a élevé la parole jusqu'à son nom. Psaume 138:2. La façon dont nous gérons l'Écriture nous concerne également, et si nous ne la traitons pas avec attention, nous devrions avoir honte. Il y a une mesure de honte dans la mauvaise manipulation des Écritures. Or, on pourrait dire, parce que c'est une perspective assez commune, que la manipulation des Écritures avec précision n'est pas une chose facile. Des hommes bons sont en désaccord. Beaucoup d'enseignants de la Bible sont en désaccord. Les prédicateurs sont en désaccord. Les écrivains sont en désaccord. On pourrait dire, si c'est si important de la gérer avec précision, et que c'est honteux quand on ne le fait pas, pourquoi y a-t-il autant de désaccords? Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. L'une est due à une étude insuffisante, à une préparation inadéquate. Une autre provient de présuppositions. Certaines personnes ont déjà été confrontées à des points de vue auxquels elles se conforment, plutôt que de laisser l'Écriture parler pour elle-même. Une autre est l'incapacité de traiter les problèmes de la vie qui éclairent le chemin de la compréhension de l'Écriture, mettant de côté le péché et d'autres choses qui encombrent l'esprit. Je pense qu'une autre chose pour laquelle il y a des différences dans les Écritures est que certaines personnes décident de suivre certains héros. Ils suivent certaines traditions, certains héros théologiques, certains auteurs, et ils établissent un lien avec eux, et ils tendent à l'imposer à divers textes de l'Écriture, parce qu'ils sont amoureux d'un certain auteur, venu d'une certaine période, même contemporaine. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il y a des différences. Il y a certaines différences qui doivent être, et nous acceptons cela sur des questions de l'Écriture qui sont quelque peu périphériques, qui ne sont pas traitées de manière approfondie dans l'Écriture, ou qui ne se trouvent pas clairement dans les Écritures. Il y a des questions dans les Écritures pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup d'informations, et nous devons prendre ce que nous avons et faire de notre mieux. Mais après avoir dit cela, je vous rappelle qu'il y a un courant dominant. Il y a une ligne principale de vérité au centre même de la parole de Dieu, au centre de l'histoire chrétienne, qui est inébranlable et constante. Et nous sommes ancrés dans cette grande tradition. Nous voulons interpréter la parole de Dieu telle qu'elle a toujours été interprétée, par les interprètes fidèles et pieux. Et la grande vérité de la foi chrétienne est qu'il y a toujours eu une véritable compréhension de l'Écriture dans toute l'histoire de l'Église, même dans toute l'histoire d'Israël. Pendant la période des errances d'Israël, de son péché, de sa vacillation, de sa défection et de son apostasie, il y avait toujours ces Juifs qui étaient fidèles à la vérité de l'Écriture, qui la comprenaient correctement. Et il y a toujours eu des prophètes qui se sont levés et qui ont donné la bonne interprétation, et des prêtres qui ont agi selon cette interprétation, juste pour ramener le peuple à Dieu. Nous voulons être en accord avec cela. Ce plus principal de vérité, de compréhension véritable des Écritures, quand nous étudions la parole de Dieu, en comprenant qu'il y a des choses trop mystérieuses à saisir, parce qu'elles sont surnaturelles par nature, et que nous sommes naturels, en comprenant qu'il y a des choses qui sont impénétrables, qu'il est impossible pour nous, avec le genre d'esprit que nous avons, de tout démêler, de tout trier. Il y a des choses pour lesquelles peu d'informations sont données, et par conséquent, nous ne pouvons vraiment pas en tirer une interprétation exacte. Mais quand il s'agit de la ligne principale et du flux principal des Écritures, le balayage des Écritures peut être saisi, et en général, la parole de Dieu peut être prise au pied de la lettre, et nous pouvons la comprendre en tant que croyants. Or, afin de faire cela, afin de tirer le meilleur parti de la parole de Dieu, afin de vraiment comprendre ce que Dieu veut dire par ce qu'il a dit, nous devons combler certaines lacunes. Et je veux en parler ce matin. Je veux parler de la façon dont nous faisons cela, en étudiant des Écritures. Nous avons déjà parlé de la lecture de la Bible, et c'est par là que vous devez commencer, en lisant pour vous familiariser avec le texte de l'Écriture. Je vous promets une chose, vous ne saurez jamais ce que dit la Bible si vous ne la lisez pas, et quand vous la lisez à plusieurs reprises, comme nous en avons parlé, avec un plan de lecture répétitif, vous allez commencer à planter la parole dans votre cœur. Elle va commencer à s'expliquer d'elle-même, parce que vous commencerez par savoir ce qu'elle dit. Mais il existe des lacunes qu'il faut combler dans la compréhension de ce qu'elle signifie par les mots qu'elle contient. Une fois que vous avez lu la parole de Dieu et que vous l'avez mise dans votre cœur, que vous l'avez relue et mémorisée, et que vous vous l'êtes appropriée, pour vous, elle va devenir vivante de plusieurs façons, mais il reste encore quelques lacunes à combler. Et ces lacunes sont liées au fait qu'il s'agit d'un document ancien. Nous avons affaire à un document ancien. Ce livre est un très vieux livre. Il remonte à la période patriarcale, à l'époque de Moïse, lorsqu'il écrit à propos d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Il remonte au temps de Job, qui a pu être écrit avant même la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, que nous appelons le Pentateuque. C'est un très vieux document, écrit sur une période de plus de 1500 ans, par plus de 40 auteurs, ancré dans ce merveilleux endroit appelé Israël. L'Ancien et le Nouveau Testament viennent tous deux de là. C'est vraiment un livre ancien. Comme vous le savez, il a été achevé au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Et nous avons donc un très vieux document. Cela crée des lacunes pour nous. Si nous voulons comprendre la Bible, nous devons combler ces omissions. L'écart numéro 1 est un écart linguistique. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et quelques passages en araméen, qui étaient plus une sorte de langage de rue commun, parlé au temps de Jésus, même parmi les Juifs, mais surtout, et bien sûr, de loin, écrite en hébreu, avec quelques passages en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, qui était la langue de l'Empire romain, qui s'était étendu à travers le Moyen-Orient, et dans la terre d'Israël à cette époque. Nous avons donc un problème ici, parce que non seulement l'Ancien Testament était écrit en hébreu, mais il était écrit dans une sorte d'hébreu qui n'est plus parlé aujourd'hui, qui a changé comme tout langage change. Mais le Nouveau Testament est écrit dans un grec différent du grec d'aujourd'hui. On l'appelle même grec koine, ce qui signifie grec commun. Et c'était différent du genre de grec rare, sophistiqué ou littéraire qu'on pouvait trouver, même à l'époque où il a été écrit. Et les deux sont différents du grec d'aujourd'hui. Nous devons donc combler ce fossé linguistique. C'est très important, parce que nous devons comprendre le discours des gens, et comment ils ont parlé, et comment ils ont écrit, si nous voulons comprendre ce qu'ils voulaient dire. C'est pourquoi, quand les jeunes hommes vont au séminaire, nous leur enseignons le grec et l'hébreu. Maintenant, nous savons qu'aller au séminaire pendant 3 ou 4 ans, et dans certains cas 8, 9 ans, cela dépend. Y passer tout ce temps et y apprendre le grec et l'hébreu, un simple cours, ne va pas faire nécessairement de vous la principale source de la signification de la langue. Mais il est très important de comprendre le grec et l'hébreu, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vous aident quand vous faites cela. Vous pouvez, par exemple, utiliser tous les outils d'études en hébreu. Vous pouvez utiliser des lexiques et des dictionnaires et tout cela. Et vous pouvez également lire certains commentaires qui se réfèrent aux mots hébreux. Et vous savez de quoi ils parlent. Et vous savez aussi, si vous connaissez le grec et l'hébreu, que lorsque quelqu'un se réfère au grec ou à l'hébreu, vous pouvez en quelque sorte vérifier et revérifier s'ils ont raison. Si vous ne connaissez pas ces langues, vous êtes comme qui dirait à la merci de l'auteur que vous choisissez de croire, parce que vous ne pouvez pas vraiment le vérifier. Donc connaître la langue est très important. Quelqu'un doit connaître la langue. Si vous, en tant qu'étudiant de la Bible, vous ne la connaissez pas, vous devez avoir quelqu'un qui peut la traduire. C'est là que les commentaires entrent en scène, pour vous aider, avec l'étude des textes et le dictionnaire des mots du Nouveau Testament et le dictionnaire des mots de l'Ancien Testament, de Vine, et ce genre de choses qui vous aident à comprendre ce que les mots signifient. Je mentionne Vine parce qu'il commence par l'anglais, puis retourne au grec, et enfin à l'hébreu. Donc, celui qui ne sait pas le grec ou l'hébreu peut l'utiliser. Mais vous devez entrer en contact avec les mots pour découvrir ce qu'ils signifient, parce que c'est le cœur et l'âme de la communication. Une deuxième lacune à combler est le fossé culturel. Cela ne concerne pas le discours en lui-même, mais les coutumes. La parole est connectée aux coutumes. La parole est idiomatique. Je veux dire que notre discours est idiomatique. Quand j'écoute certains idiomes d'aujourd'hui, je ne sais même pas de quoi les jeunes parlent. En fait, quand j'entends des conversations, je n'ai pas la moindre idée de ce dont ils parlent, parce que la langue continue d'accumuler des idiomes. Nous en connaissons certains. Vous savez, nous disons aux gens quand nous les rencontrons, « Comment allez-vous ? » ? Je ne sais pas. C'est presque une question idiote, si vous la prenez juste au pied de la lettre. « Comment allez-vous ? » ? Eh bien, comment je vais ? Je vais parce que ma mère et mon père sont allés avant moi, alors je vais. Que voulez-vous dire par « Comment allez-vous ? » ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous dites à quelqu'un « Vous allez bien ?»
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.